9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Amerigo Vespucci est sans aucun doute l'explorateur qui aura suscité le plus la controverse, et ce depuis sa mort en 1512. Il est mort à 57 ans, Vespucci. Copernic et un certain nombre d'astronomes affirment qu'il a découvert l'Amérique et que, tout à fait logiquement, son prénom Amerigo a donné son nom au continent. Mais il y a d'autres savants pour affirmer le contraire et pour nous dire que Vespucci est un affabulateur, un homme qui s'est approprié la gloire de la découverte du Nouveau Monde, alors qu'en 1492, Christophe Colomb avait été le premier à poser le pied sur le sol américain. À l'époque, on disait encore qu'il s'agissait des Indes occidentales, bien avant Vespucci qui fera partie d'explorations beaucoup plus tardives. Bref. Celui qui, le dominicain célèbre qui a défendu Colomb, Bartolomé de Las Casas, écrit on est là au XVIe siècle. Vespucci a tacitement fait semblant d'appliquer son voyage et la découverte du continent à lui-même, usurpant ainsi à l'amiral Christophe Colomb de ce qui lui était si justement dû. Le nouveau continent aurait dû s'appeler la Colomba et non pas, comme on l'appelle injustement, l'Amérique. Au XVIIIe siècle, Voltaire écrit à peu près la même chose. Mais au siècle suivant, un naturaliste et géographe et explorateur allemand, Humboldt, le célèbre Humboldt, qui va étudier les voyages d'Amerigo Vespucci et qui conclut qu'en effet, la primeur de la découverte de l'Amérique appartient bien à Christophe Colomb. Simplement, il disculpe Vespucci des accusations portées à son encontre, car, selon lui, les textes écrits de son vivant ont été modifiés, déformés par d'autres auteurs. Ce qui veut dire quand même que Vespucci était peut-être plus pur que ce qu'on a pu dire. Il n'empêche que sa réputation d'usurpateur est tenace. Flaubert ou même Stefan Zweig, dans un court récit, Américo récit d'une erreur historique qui a été écrit en 1941 lors de l'exil du grand écrivain au Brésil, tout ça a tendance à souligner que Vespucci est bel et bien un usurpateur. Il est d'autant plus l'objet de débats, cet Amerigo Vespucci, qu'il a laissé une somme de textes qui relate en tout 4 voyages, 4 traversées de l'Atlantique, le même nombre exactement que Christophe Colomb. Or, il est probable que Vespucci n'a pas participé à certaines des expéditions qu'il décrit. Ses écrits du début du XVIe siècle s'appuient sur des faits réels et vécus pour certains, mais aussi pour d'autres sur des épisodes imaginaires ou tout simplement inventés.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il était né à Florence, cet Amerigo Matteo Vespucci, né le 9 mars 1454, quand vous naissez au milieu du XVe siècle à Florence, dans cette riche cité-état, dans cette république gouvernée par les Médicis, autant dire que vous êtes dans une espèce de bain de culture. Il est né à l'époque de Côme de Médicis, Amerigo. On peut dire que Florence est le berceau de la Renaissance, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Fra Angelico, qui est en train de décorer les cellules de ses frères, ou du sculpteur Donatello? Est-ce qu'il faut parler de la cathédrale Santa Maria del Fiore, célèbre pour cette espèce de dôme incroyable, véritable prouesse pour l'époque, réalisée par Brunelleschi, et qui a été achevée en 1436, c'est-à-dire très peu de temps avant la naissance de Vespucci? Lui est né dans un milieu plutôt aisé, il a de bonnes relations, enfin quand je dis il, ses parents et grands-parents ont eu de bonnes relations avec les maîtres de la République, il est fils d'un notaire, membre du gouvernement florentin, son grand-père a été chancelier de la seigneurie de Florence, c'est son oncle, Frate Giorgio Antonio, qui est un moine dominicain lui aussi, qui va le plus influencer Amerigo. Il faut vous dire qu'il a une incroyable bibliothèque, il a fondé une école pour les fils des aristocrates florentins. Ce Frate Giorgio va prendre en charge l'éducation du petit garçon. Américo va découvrir avec lui et grâce à lui les sciences, notamment la géographie, ce qui n'empêche pas d'être excellent en latin. Il lit Virgile dans le texte, il lit Dante, Pétrarque, il lit aussi le célèbre récit de voyage de Marco Polo. Dans son ouvrage intitulé « Le Nouveau Monde, les voyages d'Amerigo Vespucci », voici ce qu'écrit Jean-Paul Duviols. C'est de l'époque de sa jeunesse florentine que date son intérêt pour l'étude des astres et pour la cosmographie. Cette passion restait encore livresque, mais il acquit dès lors des connaissances qui, plus tard, devaient lui être très précieuses. Par ailleurs, il est probable qu'Amerigo a connu le géographe florentin Toscanelli, qui était en relation avec Colomb et avec le roi du Portugal, dont la célèbre carte du monde aurait été la référence de base pour le navigateur génois, avant d'entreprendre son premier voyage. Amerigo, vous l'avez compris, est un esprit très très fertile. Il mène de brillantes études, comme ses frères d'ailleurs, et puis, grâce à son oncle, le voici recruté comme agent commercial sous les ordres de Lorenzo di Pier Francesco de Medici, autant dire un cousin de Laurent de Médicis, de Laurent le Magnifique, de Laurent de Médicis. Vous voyez qu'il est extrêmement bien placé. En 1489, ce Lorenzo de Medici licencie son agent commercial à Séville. Séville, c'est vraiment la plaque tournante, c'est le poumon économique de la Castille qui, depuis l'union dynastique avec la couronne d'Aragon 10 ans plus tôt, est gouvernée par les souverains catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, bien entendu. Amerigo est chargé de trouver un remplacement. Il propose pour le poste un ami qui est un armateur florentin, Gianotto, Berardi, qui va se trouver engagé. Et voilà que Vespucci le suit à Séville. Et il arrive à Séville à la fin de 1491. Berardi trafique dans toutes sortes de choses, notamment dans la traite des esclaves, aussi dans le trafic d'armement. Il approvisionne des bateaux. Vespucci est à son service. Berardi est également chargé des préparatifs du départ du premier voyage d'un certain Christophe Colomb. Ben oui, on est juste l'année suivante, en 1492. Et le Génois, comme on l'appelle, amiral de la mer Océane, c'est son titre, a pour mission d'atteindre les confins orientaux de l'Asie en traversant l'océan Atlantique. On est bien, à l'époque, on n'imagine pas qu'il y a un continent là qui qui s'interpose. Donc le contrat est signé, on appelle ça les capitulations de Santa Fe, et il prévoit ce contrat que 10% des richesses des territoires découverts seront données à l'amiral. Comme Vespucci se trouve dans l'ombre de Berardi, il va faire la connaissance de Colomb, on peut dire qu'il devient ami avec lui, il va préparer les navires des deuxième et troisième voyages de Christophe Colomb, vous savez qu'il y en aura 4 au total, et à la mort de Berardi en 1495, c'est lui, Vespucci, qui reprend ses activités. Il faut savoir que en 1494 a été signé le célèbre traité de Tordesillas, qui partage littéralement les terres inconnues découvertes entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque, la Castille, on pourrait dire l'Espagne si vous voulez, et le Portugal. C'est donc une espèce de course à l'exploration qui est lancée, et dans cette course-là, Vespucci a bien l'intention de jouer un rôle. Ce sont quelques instrumentistes de la Chapelle Royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Savall, qui interprétait cette danse catalane.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors plus tard, Amerigo Vespucci écrira avoir effectué un premier voyage à partir de Cadix le 10 mai 1497. Il suit le trajet des voyages de Colomb jusqu'en Haïti ou jusqu'une île de l'archipel des Bermudes, peut-être même jusqu'aux côtes de Floride. La seule preuve de ce voyage, c'est un récit écrit par Vespucci lui-même dans lequel il admet être resté en retrait pendant l'expédition. Et il faut dire qu'on relève dans ce récit pas mal d'erreurs. Il est en vérité beaucoup plus vraisemblable que Vespucci ait participé pour la première fois à une expédition de ce genre en mai 1499. Le but, c'était d'explorer des nouvelles terres, évidemment, et d'exploiter leurs richesses, bien sûr. L'expédition en question était formée de 3 vaisseaux, commandés par un capitaine espagnol assez expérimenté, Alonso de Ojeda. Ojeda avait accompagné Christophe Colomb dans son deuxième voyage, donc 6 ans plus tôt. Le chef pilote, c'était un cosmographe, Juan de la Cosa, a également accompagné Colomb lors de ses 3 premiers voyages. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'entourage de Christophe Colomb. Dans un de ses textes, qui s'appelle La Lettera, et dans une lettre datée du 18 juillet 1500, Vespucci évoque le voyage en question avec beaucoup plus de détails. Il raconte qu'après avoir quitté l'Andalousie, l'expédition est passée par les îles Canaries et après 24 jours en mer, le continent a été reconnu, plus précisément la côte nord de l'Amérique du Sud. L'équipage était très fatigué, mais ça ne l'a pas empêché d'explorer l'embouchure de l'Amazone, d'atteindre l'île de la Trinité au sud-est des Antilles, d'apercevoir l'embouchure du fleuve Orénoque que Christophe Colomb avait découvert déjà 2 ans plus tôt. Et après avoir passé le golfe de Paria, puis l'île de Margarita, Vespucci et les membres de l'exposition seraient arrivés à Curaçao, qu'il appelle l'île des géants. Il tente alors d'enlever une jeune femme pour l'emmener en Castille, seulement les habitants ne veulent pas en entendre parler. Vespucci va baptiser un port Venezuela, c'est-à-dire Petite Venise, parce qu'une très grande population a construit ses maisons sur la mer, comme à Venise, dit-il. En effet, les habitations sont érigées sur des pieux de bois qui dépassent de l'eau comme des maisons sur pilotis, comme on pouvait en voir dans la lagune. Vespucci ensuite se dirige vers Hispaniola, cette île partagée aujourd'hui entre 2 pays, Haïti et la République dominicaine, bien sûr. Dans ses notes, il décrit les populations indiennes. Alors, il parle de la nudité de tous ces gens, de leur qualité physique, à la course, à la nage. Il présente les hommes comme forts et agiles, ornés de parures constituées de plumes, d'arêtes de poissons et d'incrustations de pierres sur le visage, sur la poitrine. À propos des femmes, il dit « Bien qu'elles aillent toutes nues et qu'elles soient lubriques, elles n'ont aucun défaut dans leur corps qui sont beaux et propres. Il est une chose qui nous a paru miraculeuse, c'est que parmi elles, aucune n'avait les seins pendants. Et quant à celles qui avaient accouché, la forme et la fermeté de leur ventre ne les distinguaient en rien des vierges. » Vespucci évoque aussi le cannibalisme. Il raconte comment un jeune matelot qui avait été envoyé en ambassadeur auprès des femmes a été assommé, puis rôti et mangé sous les yeux des compagnons de voyage de Vespucci. Il remarque aussi que les autochtones urinent n'importe où et devant n'importe qui, et qu'ils ne se disputent pas. Hein. Ils parlent toujours à voix basse, nous dit-il. Bah, bref, il décrit la faune, il décrit la flore. Avec émerveillement, il dit ce qui est certain, c'est que si le paradis terrestre se trouve quelque part sur la Terre, j'estime qu'il ne doit pas être loin de ces pays. Vespucci, au cours de ce voyage, va effectuer de multiples observations astronomiques, se fondant sur les éclipses lunaires et les conjonctions de la Lune avec un certain nombre de planètes. Il relate aussi dans le détail les exactions des explorateurs, des massacres d'indigènes, des pillages, auxquels d'ailleurs lui-même participe. Il accuse de cruauté Alonso de Ojeda, d'ailleurs, qui est un homme vindicatif par ailleurs. Sur les îles des Antilles par lesquelles l'expédition va passer sur son retour, 232 Indiens sont capturés pour être vendus comme esclaves. Seulement, il y en a 32 là-dedans qui ne survivront pas. Bref, on repasse par les Açores, les Canaries, Madère. Vespucci, à ce moment-là, est frappé de paludisme. Les autres membres arrivent à Cadix 13 mois après leur départ. Quant à Vespucci, il va vendre des perles. Ça lui rapporte pas mal d'argent. Il est convaincu d'avoir parcouru les confins de l'Asie du côté oriental et le début de la partie occidentale. Vous remarquerez au passage qu'il n'est pas du tout question sous sa plume de nouveaux mondes. Ce fandango de Santiago de Murcia était interprété par l'ensemble L'Arpeggiata sous la direction de Christina Plouard.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au début de l'année 1501, Vespucci arrive à Lisbonne. Il a été invité par le roi de Portugal, Manuel Ier. Il va se mettre au service du rival de la Castille dans le domaine des explorations. Certains historiens, nous dit Christophe Dard, pensent qu'en fait, Vespucci a été plutôt en mission d'espionnage pour le compte de la Castille. Il faut savoir que Vasco de Gama a mené quelques mois plus tôt cette fameuse expédition en Afrique qui lui a permis d'aller jusqu'en Inde, jusqu'à Calicut, avec des résultats commerciaux qui vont bouleverser complètement l'équilibre de la planète. Et tout ça aurait pu rendre la couronne castillane un peu jalouse, on le comprendrait. Depuis Lisbonne, Vespucci s'est embarqué sur une flotte de 3 navires en mai 1501 pour une nouvelle expédition afin d'en savoir davantage sur les terres découvertes un an plus tôt par le navigateur Pedro Alvarez Cabral. Donc vous avez bien compris que là on parle du Brésil. Vespucci a pour objectif de cartographier de nouvelles routes commerciales, de ramener de nombreux produits. L'équipage va traverser les Canaries, passer par l'actuel Dakar, puis arriver au Cap-Vert, qui est présenté comme le début de la province d'Éthiopie, avant d'arriver 60 jours plus tard sur les côtes du Brésil. La route se poursuit vers le sud, le long de la côte sud-américaine, et le 1er janvier 1502, Vespucci entre, il est avec les autres membres de l'expédition, bien entendu, il arrive dans la baie de Guanabara, à Rio de Janeiro. On ignore quel lieu il aurait ensuite découvert. Vespucci prétend avoir continué vers le sud jusqu'au niveau du Rio de la Plata, ce qui ferait de lui le premier Européen à avoir découvert son estuaire, mais ça n'est attesté par rien. La flotte ensuite arrive sur les côtes du Sierra Leone le 10 mai 1502, va rester à terre une quinzaine de jours avant de repartir, direction les Açores, et puis on rentrera à Lisbonne le 7 septembre 1502, après 16 mois donc d'expédition. Dans plusieurs lettres, Vespucci mentionne l'existence de navires immenses dont les cargaisons contiennent de la cannelle, du gingembre, des épices et puis de la porcelaine, de l'opium, des pierres précieuses, etc. Il décrit encore les habitants nus et imberbes sans religion qui vivent dans des habitations de grande dimension et pratiqueraient le cannibalisme, observation qui avait déjà été faite lors du précédent voyage. Il remarque surtout, comme il l'écrira plus tard, que ce continent est plus densément peuplé que notre Europe ou l'Asie ou l'Afrique. Et il emploie pour la première fois le terme de « nouveau monde ». Mundus novus, ce sera le nom de son récit de voyage en latin. Mundus novus. En attendant, l'expédition est un échec commercial. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit qu'il s'agissait seulement de faire de l'exploration. Et d'ailleurs, sans doute pour se racheter, il va, quelques mois plus tard, mener un quatrième voyage suivant le même itinéraire de Lisbonne au Brésil avec un important chargement de bois. Il regagnera le Portugal après 77 jours de navigation. Entre l'été 1505 et septembre 1506, il participe à une exploration de côte inconnue qui va être un véritable désastre, des affrontements terribles, la maladie. Là, cette fois, les choses sont vraiment terribles. Mais il y a beaucoup d'historiens qui doutent que Vespucci ait participé à ce fameux voyage, parce que beaucoup de faits semblent très peu crédibles. Ça semble d'autant plus improbable qu'en 1505, Vespucci, qui a quitté Lisbonne et qui a été fait citoyen de la couronne de Castille par le décret royal, et qui a été nommé premier pilote de l'administration coloniale chargé de contrôler les Indes orientales à Séville, va se mettre à établir des cartes nautiques destinées, on est à la Casa de Contratación, vous savez, il dessine des cartes pour les futurs explorateurs. On est là donc au milieu de la décennie 1500, les récits de voyage de Vespucci commencent à être publiés à travers toute l'Europe, ce qui va lui donner beaucoup de notoriété, alors que Christophe Colomb, depuis le retour de son quatrième voyage, lui est complètement affaibli, il est malade, il va mourir en 1506 sans avoir jamais théorisé la notion de nouveau monde. Or, C'est à cette époque qu'à Saint-Dié-des-Vosges, donc en Lorraine, dans un cénacle de moines cosmographes, qui sont des Allemands, on appelle ce cénacle le gymnase vosgien, on va élaborer une nouvelle carte du monde. C'est la carte de Martin Waldseemüller, qui est un homme de 27 ans, qui a lu les récits de Vespucci, et qui va donner le prénom de Vespucci à ce continent américain, qu'il va appeler America. Or, la brochure en question a énormément de succès, elle fait le tour de l'Europe. Même si les termes Indes occidentales et Antilles restent utilisés pendant longtemps, on va se mettre à utiliser le mot Amérique pour désigner tout ça. C'est donc grâce à Waldseemüller que Vespucci a connu cette grande postérité. Humboldt, je vous ai parlé d'Humboldt, au 19e siècle, l'Allemand écrira sur un ton quand même assez amusé à propos de Waldseemüller. Oh, Waldseemüller était un homme obscur qui allait manger du raisin en Lorraine et qui a inventé le nom d'Amérique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian.
J'ai déjà parti aux Amériques avec vous. J'allais vous commander un peu de gingembre d'ailleurs, si vous pouviez m'en rapporter après ces jolis voyages. Ça fait rêver un matin comme ça. il y a toujours des doutes, comme quoi Colomb n'aurait peut-être pas découvert l'Amérique.
Je pense qu'il y a pas mal de mythes, en tout cas, dans tout ça.
Oui. Écoutez, en tous les cas, c'est un rendez-vous très agréable, comme chaque matin, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 9h en vous souhaitant une excellente journée.